Europe 1.
Le journal de 6 heures, présenté par Romain Nequet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Pas de coupure de courant pour la fête des Lumières. Rendez-vous immanquable à Lyon dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Une trentaine d'illuminations va embellir la capitale des Gaules. Drôle de paradoxe, hein, me direz-vous, en pleine crise énergétique. Eh bien, peut-être pas tant que ça. La mairie a opté pour des ampoules basse consommation et les économies d'énergie sont surprenantes. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon.
Annuler la fête des Lumières, il n'en a jamais été vraiment question ici à Lyon, d'abord parce qu'elle est célébrée ici chaque année depuis 150 ans, mais surtout parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les 30 créations lumineuses qui vont orner la ville consomment très peu, affirme le maire de Lyon, Grégory Doucet.
L'essentiel des technologies qui sont utilisées, c'est des LED, donc la facture énergétique, elle est extrêmement limitée. On l'évalue à 3 500 €, hein, global, hein, la consommation énergétique de la fête des Lumières, donc vous voyez, c'est pas grand-chose.
De plus, la consommation électrique de ce moment particulier sera compensée, explique Audrey Enoch, chargée des finances à la ville de Lyon.
Les œuvres lumière, déjà elles sont éclairées pendant 4 heures seulement, 4 soirs, et pendant qu'on les illumine, on éteint les mises en lumière habituelles des bâtiments historiques qui sont plus énergivores. Et puis on peut aussi rajouter que pendant que les Lyonnais et les Lyonnaises viennent profiter de la fête des Lumières, ils ne consomment pas chez eux en laissant tourner la télévision et les lumières.
Tout le monde va donc pouvoir profiter de cette fête sans arrière-pensée. D'ailleurs, la grande majorité des hôtels lyonnais affiche complet. Plus de 2,5 millions de visiteurs sont attendus durant 4 jours, plus qu'en 2019. Lyon. Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Des festivités qui sont donc maintenues à Lyon, mais ce ne sera pas le cas, Romane, dans toutes les villes de France.
Oui, encore moins à Valenciennes, dans le Nord. Seul l'hypercentre aura droit à ses guirlandes de Noël, crise énergétique oblige. Une économie de plusieurs centaines de milliers d'euros quand même reversée en partie dans les caisses de l'aide sociale de la ville. Une décision évidente pour le maire Laurent de Galet.
Le fait de n'éclairer que la place d'armes, de ne pas éclairer les extérieurs, ça nous fait gagner 300 000 euros. Le fait d'avoir baissé l'intensité aussi de notre éclairage, effectivement, nous avons fait un gros travail de transformation des lampes sodium en LED, ce qui coûte effectivement moins cher. Il nous en reste encore à faire. On a investi cette année pour pouvoir terminer tout ça. Donc, on fera des économies avec des retombées immédiates, ce qui est très important. Et l'accumulation de ces économies nous permet de dégager une marge de manœuvre pour boucler notre budget et en contrepartie aussi d'augmenter le budget du Centre communal d'action sociale, qui voit son budget passer d'1,8 million à 2,2 millions, donc c'est 400 000 euros de plus pour le CCAS, c'est 25%. C'est un geste fort, mais qui, à mon avis, sera nécessaire parce que je crois que le service public qui sera le plus utilisé à Valenciennes en 2023, ça risque, hélas, d'être le CCAS.
Le maire de Valenciennes, Laurent de Galet, joint par Maximilien Carlier pour Europe 1. Et puisqu'on parle de Noël, impossible de ne pas évoquer le menu. Est-ce que vous avez déjà prévu le vôtre, Alexandre ?
Alors, pas du tout.
Ouais, c'est vous qui cuisinez ?
Pas du tout. Mais oui, ça a l'air de vous surprendre.
Non, pas du tout.
Écoutez, je me fais aucun souci pour ça.
Très bien.
L'inspiration, on l'en trouvera toujours.
Eh bien, on a hâte de goûter avec Omblin puisque nous vous êtes bien sûr invité. En tout cas, en plus du menu, il faut aussi trouver le vin qui va avec. Alors vous opterez peut-être pour un bon vin de Bordeaux, un vignoble qui traverse tout de même une crise profonde, chute des exportations vers la Chine, taxes américaines, baisse de la consommation française. Résultat, les chais sont pleins et les trésoreries à sec.
Et oui, les vignerons n'ont plus qu'une solution, arracher leurs vignes. Pour baisser le rendement.
Et oui, ça peut paraître surprenant. C'est un appel au secours des petits producteurs qui manifestaient d'ailleurs hier dans les rues de Bordeaux. Mobilisation suivie par le correspondant d'Europe 1, Stéphane Place.
Ce ne sont évidemment pas les grandes étiquettes du Bordelais, les châteaux prestigieux qui souffrent de cette surproduction évaluée à 1 million d'hectolitres et de cet effondrement des prix, mais bien les appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur, en particulier pour le vin vendu en vrac. Denis est un vigneron girondin qui ne voit pas d'autre solution que d'arracher des vignes dans sa propriété.
J'ai des stocks qui augmentent, je ne pourrais pas loger une récolte supplémentaire. Il faudrait que j'arrache de 10 à 20% de mon vignoble.
Arrachage d'au moins 15 000 hectares de vignes avec une prime de 10 000 euros par hectare, c'est ce que réclame le collectif Viti 33, que préside Didier Cousinet, qui répond aux interrogations que suscite cette revendication.
Dans nous, les petits viticulteurs de l'appellation de base Bordeaux, Bordeaux générique, on est en train de crever. Quand on a aidé Peugeot, Renault, personne n'a rien dit. Quand on a aidé Airbus, personne n'a rien dit. Quand on a redressé les banques où tous les Français ont mis l'argent à la poche, personne n'a rien dit. Rien que la viticulture bordelaise rapporte 400 millions d'euros de TVA tous les ans à l'État, on demande juste une juste rétribution de tout ce qu'on a donné.
Hier, la préfecture de la Gironde a annoncé l'ouverture d'une cellule de crise pour étudier les aides possible.
Un reportage signé Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.
6h04, comment repérer les victimes d'abus sexuels dans l'église? C'est le thème d'une nouvelle formation proposée depuis la rentrée. Des prêtres, des laïcs, des religieuses, même ils préparent un diplôme universitaire à l'Institut catholique de Paris.
2 jours par mois avec des cours de psychologie, de droit et d'écoute des victimes. 24 élèves font partie de la première promotion. Louise Salé a assisté à l'un des cours pour Europe 1.
Aujourd'hui, nous allons parler des qualités attendues d'un accompagnement spirituel pour que celui-ci soit bienfaisant.
Gilles Berceville enseigne la théologie. Il donne cours avec le psychologue Jacques Arène.
La question, c'est de voir comment des relations d'accompagnement peuvent devenir des relations de pouvoir excessives.
Car c'est par là que commencent les violences sexuelles. Et cet aspect psychologique, c'est justement ce qui a attiré Alain de Rémy. Il est évêque en Suisse. Il se déplace exprès de Genève tous les mois.
Je me suis dit que c'était une belle occasion puisqu'on a eu aussi beaucoup d'abus chez nous, très médiatisés. Il faut apprendre à gérer ces situations.
Une prise de conscience qui n'empêche pas Ange-Marie, une moniale bénédictine, d'exprimer sa colère.
Moi, j'ai envie de hurler. On fait comme si de rien n'était. Ça me hérisse le poil à la messe dans les communautés monastiques. Il y a énormément d'abus de pouvoir avec des abbés ou des abbesses qui sont obligés de démissionner. La personne qui dénonce les problèmes souvent est forcée d'arrêter la vie monastique. Elle se retrouve dehors dans une grande précarité. Je ne peux plus supporter ça.
La formation coûte au moins 700 euros l'année, mais elle peut être remboursée par le diocèse.
Le reportage de Louise Salé. Nous savons que notre position sera inaudible. Les mots du parquet au procès du crash Rio Paris. Le procureur général a requis la relaxe hier pour Airbus et Air France. Aucun manquement, je cite, en lien avec la catastrophe aérienne qui a tué 228 personnes en juin 2009. 6h06 sur Europe 1. Il avait déjà demandé à ses salariés de travailler à fond. Je cite, il transforme désormais les bureaux en chambres à coucher, bien évidemment. Elon Musk, le patron de Twitter, fait encore parler de lui. Lundi, les employés du siège de San Francisco ont découvert des lits dans les locaux. Alexis Guilleux, le milliardaire, a visiblement un message à leur faire passer.
Oui, d'après des salariés, plusieurs pièces des locaux ont été transformées en mini-dortoirs tout équipés. Lits, rideaux, tables et lampes de chevet. Selon le magazine Forbes, il y aurait 4 à 8 chambres de ce genre par étage dans les locaux de Twitter. Cette nouveauté correspond à la volonté affichée par Elon Musk, voir ses employés s'engager sans relâche pour le réseau social. Le mois dernier, le milliardaire a même lancé un ultimatum à ses salariés, travailler à fond pour Twitter ou quitter l'entreprise. Résultat, plus de 1200 personnes ont préféré partir. Depuis la prise de pouvoir d'Elon Musk, la moitié des employés de Twitter ont démissionné ou ont été licenciés. En tout cas, la nouvelle direction n'a apporté aucune justification ou explication à l'apparition de ces lits dans les locaux. Une absence de communication qualifiée de manque de respect par un employé qui préfère rester anonyme. Des lits qui ne demeureront peut-être pas sur place. La ville de San Francisco a ouvert une enquête pour s'assurer que ces nouveaux aménagements chez Twitter respectent bien la loi.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, voilà, dormir au travail, en voilà une bonne idée, Alexandre.
Bah écoutez, je vais commencer à y songer. Ouais. Ça facilitera peut-être le réveil après tout.
Oui,
hein.
Bah pourquoi pas, au moins ce sera plus simple. Allez, je vous fais plaisir avec la fin du journal. Blind test facile, hein.
Je suis un petit peu perplexe par c'est une version particulière, non,
Non. Stand by me de John Lennon,
John Lennon
Alexandre.
John Lennon,
là.
Évidemment,
bon,
mais...
Faut réviser. Hein. Assassiné le 8 décembre 1980, 42 ans jour pour jour aujourd'hui. Voilà.
42 ans.
Ouais. Un prétexte aussi pour profiter du morceau.
Et pour se réécouter de John Lennon, évidemment. C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Noquet.